Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Affinités électives. Eri De Luca par Francesca Isidori. Eri De Luca, écrivain italien, né en 1950. Il revient sur son enfance à Naples, encouragé à lire par son père. Il retrace son histoire ouvrière, partagée avec sa génération, celle de 1968, en Italie. Il raconte la vague révolutionnaire et le reflux de la vague, les licenciements massifs de la Fiat, la répression en Italie, l'action que quelques-uns de sa génération payent encore aujourd'hui très cher. Il ne renie rien de cette lutte, se sent totalement solidaire. Il a commencé à lire la Bible à une époque de désert, dit-il, et il s'est reconnu dans ces histoires désertiques qui semble écrite pour un lecteur dans le futur, écrite dans des temps où une révélation écrasante s'est donnée à des peuples encore profondément polythéistes.
Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. En haut, à gauche, comme le titre de l'un de ses livres, à gauche, le militantisme de celui qui avait tout juste 18 ans en 1968 et de l'ouvrier qu'il est devenu après les années des révoltes vaincues. À gauche, son engagement d'écrivain dans l'Italie d'aujourd'hui. En haut, au sommet des montagnes qu'il escalade, théorie 8A, seuls les alpinistes peuvent comprendre, et puis ses autres ascensions quotidiennes, depuis des années, au petit matin, dans les Saintes Écritures, un homme de l'Ancien Testament qui se dit seulement prêté à cette époque qu'est la nôtre. Les affinités électives de Eri De Luca.
The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so.
Bonjour Harry De Luca.
Bonjour.
Bob Dylan, I Want You, pour commencer.
Et pour commencer, oui. J'étais un garçon enfermé dans la surpeuplée ville de Naples dans les années 60. J'étais un adolescent un peu bloqué dedans soi.
C'est pas l'image qu'on se fait d'un Napolitain.
Non, c'était
à
le contraire.
À l'étranger surtout.
Non, c'était le contraire. J'avais une espèce de sauf-conduit à me séparer des autres, qui était la bibliothèque de mon père. Il y avait une chambre de notre maison qui était tapissée à livres. Et mon père les aimait et me permettait de m'isoler, de rester au dehors donc, des relations, des amitiés, en fréquentant ces livres.
Et Bob Dylan dans tout
et
ça?
Et Bob Dylan arrive de l'extérieur. C'est une voix et un siffle qui appelait une génération entière à sortir de la maison et à se mettre sur les roues, à se reconnaître entre, comme génération, se connaître dans le large de l'âge que nous avions. Et c'était ce siffle qui pénétrait dans les oreilles et qui nous faisait venir envie de sortir. De sortir, mais sans le suivre, sans suivre personne. Il n'était pas un maître, il était tout simplement un siffle de l'Amérique. Il était une fois l'Amérique. Il y avait continent qui nous donnait des nouvelles musiques, des nouvelles poètes, une façon de respirer plus large.
Et puis beaucoup de Napolitains étaient partis aussi pour les États-Unis.
Beaucoup de Napolitains s'étaient perdus dans les États-Unis, oui. Et dans les Amériques, au-delà des océans. Mais pas seulement de Napolitains. Des millions d'Italiens étaient partis là. Par exemple, l'Argentine, l'Amérique du Sud, l'Argentine était formée par des Italiens, par millions d'Italiens.
Harry De Luca, vous jouez la guitare? Vous jouez toujours de la guitare?
Je maltraite la guitare comme je maltraite le français. mais je...
Ça va, en français c'est audible, la guitare, je ne sais pas.
Mais aussi, un peu audible, c'est le mot juste, à peine audible.
Harry De Luca, vous me montrez les photos que vous avez apportées. Il y en a une très grande, en noir et blanc, et une petite en couleur, qu'on a failli perdre d'ailleurs dans les couloirs de la radio.
Il a montré une photo à la radio,
c'est un pari.
C'est un exercice de précision.
Non? Allons-y.
Alors, il y a moi que j'avais 19 ans, 18 ans. Je suis avec une fille en train de danser, mais ce qui ne se voit pas est qu'on était sur la glace. On avait
des patins roulettes.
Oui, des patins pour la glace, pour bouger sur la glace. Je ne savais pas me tenir là, et c'est elle qui me tient. C'est elle qui me... semble que moi, si je suis le danseur, c'est elle qui me soutient directement debout.
Oui, la glace, on peut juste la deviner parce que vous avez des cols roulés, des gants. Mm. Mais c'était pas la glace des Alpes ou...
Oui, des Alpes.
Si?
Oui, oui.
Ah, oui.
On était...
Vous étiez déjà attiré par la montagne.
Mais je suis... été déporté en montagne depuis que je suis garçon. Ma première photo, c'est la photo sur un gazon de montagne.
Et dites-moi, et l'autre photo alors?
L'autre photo?
Elle est où?
On avait dit que j'avais apporté une photo de réserve.
Oui, alors?
Alors, ça, c'est une photo de la même âge et je suis en train de demander un passage
à faire du stop.
La route, c'est une route sur Belgique. J'étais en Belge, j'étais en train d'aller un peu plus au nord. C'était un autre voyage d'initiation de garçon qui était de rejoindre le nord, le plus nord possible.
Avec un sac à dos.
Avec un sac à dos.
Et qui a pris
militaire.
La photo alors?
Et l'autre ami, nous étions en deux. À rejoindre le nord. Nous étions le sud qui va se promener au nord. Maintenant, nous sommes le nord pour des autres qui viennent se promener chez nous pour essayer de trouver une vie chez nous.
C'était sur la route alors, c'était Rue des Lucas sur la route.
Si, si, c'est sur la route.
Alors, on a parlé de Bob
Dylan. En attendant, en passage.
En attendant de faire son chemin.
Oui, oui, c'est une photo pleine de patience.
Pleine de patience et d'espoir aussi.
Oui, il faut plus de patience que d'espoir. Alors, la route, comme on voit, c'est complètement déserte.
Oui, oui, il n'y a pas l'ombre d'une voiture, mais enfin bon, il y en a peut-être une qui a fini par passer. Alors, on a commencé avec Bob Dylan, avec ce que vous disiez de l'Amérique, et puis vous avez choisi de lire un texte de Kerouac sur la route, justement. Vous voulez le lire maintenant ?
Oui, je lis quelques lignes. Au mois de juillet 1947, ayant économisé quelques $50 sur ma pension d'ancien combattant, j'étais prêt à partir pour la côte ouest. Un ami, Rémi Boncoeur, m'avait écrit de San Francisco pour me demander de m'embarquer avec lui sur un paquebot qui faisait le tour du monde. Il jurait qu'il pourrait me caser à la salle des machines. Dans ma réponse, je lui dis que je me contenterais d'un vieux cargo, si je pouvais y faire quelques petites virées dans le Pacifique et rentrer ensuite avec assez d'argent pour subvenir à mes frais chez ma tante jusqu'à ce que j'ai fini mon livre. Il dit qu'avait un bicoque à Mill City et que j'aurais tout le temps du monde pour travailler pendant les pourparlers qu'il nous faudrait mener pour dégoter un bateau. Cette histoire, on the road, cette histoire sur la route de Kerouac, était une invitation supplémentaire à sortir de la maison.
Et c'était un des livres qui était dans la bibliothèque chez vous?
Oui, oui, c'était dans le livre de la bibliothèque de mon père, qui était une bibliothèque, une espèce de bibliothèque universelle pour moi. Moi, je me souviens d'elle comme d'une quantité géante de livres. Mon père les achetait à kilo ou à mètre.
Oui, j'ai lu ça, oui. Par kilo. C'est possible, ça?
Mais il était un lecteur...
Effréné.
Oui, effréné. Et il lisait tout, il ne sautait pas les pages. Comme moi, il allait jusqu'au bout.
Henri De Luca, dans un de vos textes intitulé « Questions », où il est question d'interview, le personnage interrogé, sans monter, au fur et à mesure que les questions lui sont posées, sans monter en lui une sorte de marasme acoustique de voix intérieure, c'est un véritable... tapage, et vous dites chacun de nous est une foule, même si avec le temps on préfère la simplifier jusqu'à la pauvreté d'une singularité. Alors ce qu'on va essayer peut-être de faire, enfin, c'est l'ambition de cette émission, je ne sais pas si on y arrivera, c'est de faire entendre peut-être quelques-unes de ces voix, de ces personnages, de cette foule qui est en vous. Alors peut-être que pour commencer, je ne sais pas, c'est ambitieux comme projet ça?
Non, mais pour moi, c'est évident que chacun de nous est une foule. C'est pas moi que j'ai fait divers métiers, j'ai fait beaucoup de zigzags, c'est le mot juste en français,
oui, oui.
Aussi, des détournements comme ça, à l'aveugle. Mais dans chacun de nous, il y a les ancêtres qui sont enracinés et les absents, les gens que nous avons perdus, nous sommes aussi un reste de ceux qui ne sont plus là. Et qui garde un résidu de vie dans les vies de ceux qui se souviennent d'eux. Donc, je crois que c'est pas une spécialité de ma vie, d'être une foule. Et je suis, quand j'écris, je me sens comme une place. Où se retrouve une foule. Parce que j'écris des histoires qui se sont déjà produites, qui sont passées, qui sont histoires qui se sont déroulées. Je n'invente pas. Et alors, c'est le moment où je peux inviter les participants de cette histoire à être autour de moi. Et je suis leur lieu de rencontre.
Les voix du dedans, comme dirait Eduardo de Filippo, Napolitain,
oui.
Auxquelles vous ressemblez un peu. Physiquement, on ne vous l'a jamais dit?
Non, non, vraiment. Mais peut-être nous qui avons aimé Eduardo de Filippo, et en tant que Napolitain, nous avons pris des gestes de la manière et aussi beaucoup de ces expressions réussies on peut rassembler à lui pour imitation involontaire
par
de ses
sympathie.
Mouvements. Oui, par sympathie.
Alors, je lis une autobiographie très succincte de vous. Je suis née d'un siècle et d'une mère mineure. Je suis née à leur milieu, à Naples, en 1950. Alors, une ville, Naples, c'est là où vous avez grandi, c'est là que vous avez fait votre éducation sentimentale, c'est là, je vous cite encore, que vous avez accordé le clavier de vos cordes et de vos nerfs.
Une octave...
En dessous.
En dessus. C'était plus tendu. Oui.
Et déjà, à Naples, c'est déjà...
La ville que j'ai fréquentée, c'était plus tendue qu'ailleurs.
Oui. Et qu'est-ce que ça a donné comme, comme résultat?
Que le système nerveux était bien
solide.
Solide, oui. Parce qu'il ne, il n'avait, il s'était pas déchiré là où la tension était majeure.
Vous dites aujourd'hui que vous n'êtes plus napolitain.
Je ne suis plus napolitain parce que je n'ai pas le droit de me dire napolitain tant que je n'habite pas la ville. Mais je viens de là. Je souligne toujours le fait que je suis quelqu'un qui vient de là. Cette origine m'explique à moi mes réactions, ma manière de passer en surface sur le reste du monde. Il y a des écrivains napolitains qui se fâchent un peu à être coincés dans la précision de l'écrivain napolitain. Moi, j'y tiens beaucoup.
Même si ça peut être parfois un stéréotype, mais vous ne ressemblez
pourquoi
pas.
Oui, pourquoi pas. Mais Napoli, c'est un stéréotype un peu varié. Donc on peut dire de Naples n'importe laquelle chose et avoir une bonne approximation de vérité. C'est une ville littéraire parce que c'est une ville de laquelle on peut dire tout ce qu'on veut.
C'est une ville qui se prête au récit.
Oui, qui se prête au récit, qui se prête aux disséries.
Une ville, donc Naples, et puis une année, 1950, ce qui veut dire, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est très simple à calculer, 18 ans en 1968, et donc ça veut dire une génération. Et vous avez dit un jour, je voudrais que le camarade que j'étais à ce moment-là puisse me serrer la main aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes toujours en accord avec le Harry De Luca du passé, avec ce Harry De Luca des 7 années de militantisme dans l'extrême gauche, de 68 à 76?
Je ne peux pas le prétendre, mais j'espère d'être la suite du garçon que j'étais. J'espère que le garçon que j'étais puisse reconnaître lui-même de moi. Maintenant, j'espère. J'essaie de me comporter avec cette loyauté envers les raisons de ma génération et de moi-même. Et tout ce que j'ai fait, j'ai subi et j'ai commis.
Oui, loyauté, c'est un mot qui revient justement quand vous parlez de ces années-là, d'engagement, de militantisme. C'est loyauté plutôt que fidélité.
Parce que la fidélité, pour moi, vise à quelque chose de personnel et de physique. Je peux être fidèle à une femme, je peux être fidèle à une communauté, mais quand il n'y a plus de femme et il n'y a plus de communauté, on ne peut qu'être loyal avec les raisons de ces rencontres.
Vous dites, je suis loyal avec cette génération d'insurgés issus de 1968 qui m'a ouvert et retourné comme un gant, qui m'a sorti les mots de la bouche et le courage du corps.
Oui, c'est passé comme ça. Je disais avant que j'étais renfermé dans moi-même, implosé dans moi-même. Et là, cette génération était, du point de vue de la thérapie, c'était miraculeux. Il faisait courir les boiteux. Sourire les gens qui n'avaient pas de dents, et ils n'avaient pas honte de n'avoir pas de dents, ils souriaient, et permettaient à des garçons pauvres d'être en relation avec des filles riches, ce qui ne s'est plus produit. les riches avaient une espèce de honte d'avoir de venir, d'avoir de l'argent en plus. C'était une génération curieuse, mais miraculeuse. Et elle prétendait que tout le monde s'exprimait, parlait. Chacun devait dire la sienne. Il n'y avait pas de choses à déléguer à quelqu'un d'autre. Et alors, on était forcé à extraire les mots de la bouche, à vive force. J'ai appris à parler dans les luttes politiques.
Mais qu'avaient-ils en commun tous ces jeunes qui ont afflué dans des mouvements comme Lotta Continua, comme vous? Quel était le mot de ralliement ou le dénominateur commun? Qu'est-ce qui les faisait être ensemble et être ensemble de cette façon-là, à ce moment-là?
Maintenant, je ne le sais plus. Maintenant, toutes les explications logiques, politiques, historiques ne me suffisent plus. Je pense qu'il y a dans l'histoire des générations des vagues. Et une vague n'est pas expliquée de la vague précédente ou des vagues après. Il s'agit de vagues qui montent tout à coup et qui grossissent et qui finalement arrivent à s'écraser contre le rivage. Maintenant, je me donne une explication. Météo. Ça arrive, c'est passé cette perturbation sentimentale et politique dans une génération qui avait plein de raisons. Mais même les générations suivantes ont plein de raisons, même celle de maintenant. Mais celle, c'était coincée dans soi-même et s'est lancée comme un cheval de Don Quichotte contre les barrières. Je ne me l'explique pas. Mais les raisons sont connues, les raisons sont très répandues, très logiques aussi. L'Italie, c'était un pays qui sortait de la guerre, qui sortait d'un Moyen-Âge de la démocratie. Et il était un pays, n'est même pas encore un pays laïque. En France, on fait des luttes pour l'État impose la laïcisation de ses citoyens. En Italie, il y a le crucifix, non, dans les lieux publics, dans le tribunal, dans la prison, dans l'école, dans le Parlement. Donc, c'est pas un pays laïque maintenant, mais il était encore moins laïque après la guerre. Donc, c'était un pays théologique, il y avait une théologie politique, il y avait la police qui tirait sur les paysans et sur les ouvriers en lutte, il y avait les préfets qui venaient directement de la police fasciste, étaient restés là. Donc c'était une Italie ancienne, il y avait plein de raisons de se battre. Et la nécessité était forcément une nécessité d'organiser pour se défendre, et donc une nécessité de violence, parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas le droit de faire des manifestations. On était obligé à prendre avec la force les morceaux d'espace pour faire de la politique. Nous avons été la plus emprisonnée des générations de l'Italie. De toute son histoire, beaucoup plus que les antifascistes pendant les 20 ans de fascisme. Donc nous avons exprimé une opposition intégrale qui a duré beaucoup d'années, et c'était une situation qui a côtoyé la guerre civile.
Mais quand vous dites que vous êtes loyal avec cette génération, donc la vôtre, vous êtes loyal jusque dans ces errements, ces égarements, jusque dans ces choix extrêmes?
Jusqu'à la lie. Oui.
Mais vous n'avez jamais pris les armes, vous?
Pourquoi pas? Nous étions des révolutionnaires. Mais la différence entre Lotta Continua, par exemple, c'était une organisation révolutionnaire qui se battait, qui organisait qui était publique, avait un journal, des locaux. La différence entre nous, que la violence était une nécessité minère de l'action politique, mais inévitable. Pour les organisations armées, la violence était le seul format de l'action politique. C'était une grande différence, mais ce n'était pas une contradiction sur l'emploi des armes. Les révolutionnaires emploient les armes, sont forcés d'employer les armes.
Parmi les camarades, vos camarades de cette époque-là, certains sont encore en prison,
oui.
D'autres se sont exilés, d'autres sont des repentis. Est-ce que vous avez des liens avec les uns et les autres?
J'ai des liens avec ceux qui sont restés coincés dans le fond du sac, avec des réfugiés qui se trouvent ici en France, avec des gens qui purgent des peines à perpétuité en Italie. Oui, je suis encore lié à ces gens parce qu'ils ne sont pas libres de je suis pas libre et ils sont pas libres de se séparer. Je suis pas libre de me séparer d'eux parce que leur destin regarde le destin de ma génération. C'est la partie finale de cette histoire. Et je ne vais pas détacher d'eux jusqu'au moment où ils seront libres. J'espère qu'ils soient un jour tout libres pour me pouvoir détacher d'eux. Non pour les embrasser. Je l'embrasse déjà maintenant. Mais je voudrais me détacher de cette histoire, pouvoir la prononcer au passé, au temps passé. Ce n'est pas le cas maintenant, jusqu'à ce que dure cette poursuite pénale, jusqu'à ce que dure la persécution de l'Italie qui vient frapper au gouvernement français pour pouvoir arracher quelques copains qui est resté ici et qui a trouvé du travail et de la vie, normale ouais. Ici. Ce sont des gens qui se sont rendus depuis 20 ans, qui sont des vaincus, et l'Italie, mon gouvernement italien continue à essayer de célébrer des victoires sur des vaincus.
C'est le cas, par exemple, de Persichetti. Vous avez pris position.
Persichetti a été enlevé, pratiquement. A été enlevé. La raison pour laquelle il avait été pris ici, c'était pour qu'il. Peut-être il était impliqué dans l'homicide de Biagi en Italie. Bon, le magistrat a démontré qu'il n'était pas impliqué sur ça. Et il a été enlevé sur des faux motifs. Et il purge sa peine maintenant en Italie. C'est comme ça. Mais ça ne suffit pas. Il continue encore à frapper, à essayer d'extorquer au gouvernement français des autres vies.
Henri De Luca, en 1976, l'OTA continue, c'est la dissolution de ce mouvement. Si. Pourquoi n'avez-vous pas continué?
J'ai continué. J'ai exactement continué. Ça ne me suffisait pas.
Comment?
Je suis allé à Turin, je suis entré dans la Fiat, à l'usine, et j'ai commencé de ce moment-là à faire le métier ouvrier. J'ai continué à être avec les gens avec lesquels je me battais jusqu'au jour avant. Donc la dissolution de l'OTA continua ne m'a pas donné le congé. Le congé, je l'ai ressenti le moment où la communauté ouvrière de laquelle je faisais partie, la Fiat, venait d'être expulsée de la Fiat par dizaines de milliers. La Fiat expulse 20 000 ouvriers. Exactement l'automne de l'année 80, il y a une lutte très dure, très violente, très, très acharnée à laquelle j'ai pris parti, mais c'était la lutte finale, la dernière lutte. Après, ils ont gagné, nous sommes restés au dehors. Et de ce moment-là, chacun... J'ai fait le métier ouvrier, mais je n'avais plus l'appartenance à une communauté, à une classe. C'était tout simplement le métier dans lequel j'étais fini.
Et se vai à l'hôtel Supramonte et guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. Passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dov'è, è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?
Fabrizio De André, Eri De Luca, Hôtel Supramonte. Fabrizio De André, je crois qu'il n'est pas très connu en France. C'est dommage.
Mais c'est le, notre meilleur chansonnier. Il doit beaucoup à la chanson française et à des gens comme Brel, Brassens. À propos de quoi? Où sont-ils finis les chansonniers français?
Il y en a d'autres. Différents.
Hein? Ah, mais pour nous, c'était la possibilité de la poésie accompagnée par la musique. C'était une surprise.
C'est très beau, cette chanson.
C'était très. Il nous a contagié.
Hein? Mmh. Contaminé
beaucoup.
Eri De Luca, vous disiez donc qu'après toutes ces années de lutte, vous êtes devenu ouvrier. Enfin, vous préférez dire, je crois d'ailleurs, vous avez fait le métier d'ouvrier, faire l'ouvrier, comme on dit en italien, fare l'operaio, non pas être.
Faire le métier. Vous savez, on dit aussi que comme ça, en Italie, on dit faire le métier, pour une femme, c'est le métier, c'est celle de la rue. Et alors j'emploie cette même expression pour dire que faire le métier pour un homme, c'est faire l'ouvrier. Et donc j'ai fait le métier.
Vous dites que après ces années, vous vous sentiez irrécupérable, inutilisable. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ma génération a été inservible, inutilisable pour le réchange de la classe dirigeante en Italie. Nous n'étions plus bons à être des dirigeants. Nous, les indisciplinés, les insurgés, nous ne pouvions pas recycler nous-mêmes pour échanger de peau. La grande partie de cette génération insurgée s'est dissouse physiquement à travers des drogues. Il y a eu une décimation à travers les drogues, oui, ou à travers le conflit armé, ou tout en restant là où elle était, dans le coin et dans le côté qu'il avait choisi.
C'était la seule forme de reconversion possible, de recyclage.
Oui, de recyclage, mais sans réussir à participer à part entière à la vie politique, à la suite.
Donc vous êtes dans ces années-là, dans les années 80, vous êtes tour à tour manœuvre à Paris, vous travaillez dans un aéroport en Sicile, vous posez des éoliennes en Afrique, vous êtes ouvrier chez Fiat, vous l'avez dit tout à l'heure.
Maçon, la plupart du temps. Oui.
Mais
ça, ce sont des métiers qu'on se trouve des occasions de travail. Je n'ai pas réussi à rester beaucoup de temps dans un même endroit parce que il y avait des questions toujours, surgeaient des questions, et donc il fallait se battre, se disputer, et donc partir. En France, par exemple, j'ai travaillé, mais les derniers mois, le patron ne payait plus. Et il aurait fallu faire une lutte, occuper les bureaux, et enfin obtenir ce qui nous était dû, que nous avons déjà gagné. Et il fallait partir. Ce moment-là, c'était le 90, je suis parti pour l'Afrique. L'Afrique comme travailleur volontaire, donc comme sans salaire, gratuit. Et parce que je voulais essayer de faire quelque chose de plus utile que arracher des sous à des patrons mal intentionnés. Et comme ça, je me suis trouvé là. Mais là, je n'ai pas réussi à durer longtemps parce que j'ai pris des fièvres de la malaria et les fièvres de l'intestinale. Mais le plus dur ont été les fièvres de la malaria.
Et quand vous participez à des missions en Bosnie, quand vous êtes chauffeur de poids lourd pour ces missions, est-ce que c'est toujours dans la même cohérence, dans la même lignée?
Non, je ne sais pas. Donc la Bosnie, c'était le retour de la guerre en Europe. Après 50 ans, nous avons été la première génération qui a sauté la guerre et qui n'a été prise pour être lancée contre une autre génération déclarée ennemie. Et comme ça, nous nous sommes intéressés des guerres des autres. Pendant les années de la 60-70, nous nous intéressions de la guerre du Vietnam et faisions manifestation contre les colonialismes qu'il y avait encore, le colonialisme en Afrique, il y avait encore les colonies de portugaises, l'Angola et l'Amérique latine, les fascismes de l'Amérique latine. Mais le retour de la guerre en Europe a été un choc pour nous. Et alors nous étions à côté, nous étions la nation la plus proche, et beaucoup d'Italiens ont commencé à aller là et à... Mais parce qu'ils ne pouvaient pas rester avec chez eux. Et le mouvement a été un bel mouvement parce que ça a permis d'être pas une agence d'aide parmi les autres, mais être nombreux. Être nombreux, être comme une délégation de peuple à côté d'un autre peuple qui était en souffrance, en difficulté. Donc, milliers d'Italiens se sont dirigé dans ces allers-retours, et j'ai fait simplement le chauffeur de certains convois d'aide que, organisés par des catholiques de l'Italie du Nord. Mm. Il allait déjà, il était des croyants, très croyants, il allait déjà dans ces régions à Medjugorje, pour où ils avaient les apparitions de la Madone. Et ils ont converti leur pèlerinage en convoi d'aide. Et ils ont décidé, même s'ils étaient du côté catholique, donc chrétien, du côté d'une des parties en guerre, du côté croate, de s'adresser principalement aux musulmans, aux bosniaques musulmans, qui étaient la partie la plus faible et la plus encerclée, la plus en difficulté. Nous avions déchargé beaucoup de... La grande majorité de notre aide directement aux musulmans de Bosnie. Et ça me plaisait de la part de ces gens qui étaient tout simplement des gens de paix.
Et l'écriture, Henri de Luca, pendant toutes ces années, les années du militantisme dans l'extrême gauche, les années où vous êtes ouvrier maçon en Italie, en France, en Afrique, ou les années plus récentes où ce métier d'écrivain vous a permis de ne plus exercer le travail d'ouvrier. L'écriture, elle est née comment? Elle est arrivée quand?
L'écriture était toujours la façon de laquelle je me suis tenu compagnie. La meilleure compagnie, depuis que j'étais garçon. Je disais que dans la chambre des livres de mon père, j'étais enfermé là-dedans et je pouvais aussi ajouter mes histoires à celles que je lisais. Bon, j'ai tout jeté de ça. Après, il ne me plaisait plus. Ces histoires, mais je me suis toujours obstiné à mettre le mieux de moi dans l'écriture. Ce qui s'est interrompu pendant les années de l'engagement de la militance politique, des guerres, des batailles, parce qu'il y avait une communauté là. J'étais habité par une communauté. L'écriture, pour moi, a toujours besoin d'un isolement, de la solitude, mais pas de la solitude matérielle. Je peux écrire parmi la foule. C'est pas une question de concentration ou d'avoir un abri silencieux, non. Mais c'était une solitude parmi les autres, d'être sans relation. Et ça m'est arrivé souvent dans la vie ouvrière après. Et quand s'est terminée la communauté de la politique. J'ai recommencé exactement le jour après, j'ai recommencé à écrire des histoires qui m'étaient arrivées. Et je me suis tenu compagnie toujours comme ça, partout. Et je n'ai pas, mais c'est facile de faire ça, hein. L'écriture c'est légère. Il faut amener tout simplement un cahier et un stylo.
Et votre père écrivait déjà? Parce que non seulement il achetait des livres par kilo, non seulement il avait tapissé cette chambre dont vous dites qu'elle était la plus chaleureuse de la maison, non seulement il l'avait tapissé de livres, mais il écrivait. Et même quand il est devenu aveugle, il continuait de taper sur sa machine à écrire avec deux doigts.
Et il essayait de... Mais que ça s'est passé à la retraite, Il était déjà devenu aveugle, mais à la retraite, il a commencé à taper sur la machine des histoires, lui, des histoires pleines de fantaisie, d'inventions, des histoires un peu... des histoires d'amour, de napolitaines. Il connaissait bien l'histoire de Naples, l'ancienne, et il plantait ces histoires dans la vieille Naples des siècles précédents.
Donc il vous a transmis non seulement l'amour des livres, parce qu'il disait, je crois, enfin, vous lui faites dire, les livres ont un caractère héréditaire, donc c'est un caractère qu'il vous a transmis, mais il vous a transmis aussi cet amour de l'écriture.
Oui, je crois que c'était... que j'ai essayé de préciser, de mener jusqu'à un peu plus en là, on dit que jusqu'au bout, mais c'est des désirs de lui. Il était lecteur, je suis un lecteur, il écrivait, je suis maintenant nommé comme écrivain. Il a fait la guerre comme dans l'infanterie de montagne, et moi je suis devenu alpiniste, escaladeur. La voie que vous avez nommée avant, c'est une voie de degré 8B+, ça veut dire que c'est la plus difficile jamais gravie par un cinquantenaire.
Voilà, alors... éclaircissant ce mystère de la théorie 8A, si, avant de passer à autre chose.
La théorie de 8A, c'est le titre un peu ridicule, un peu moqué d'une voie très dure, pas la plus dure du monde, parce qu'il y a des possibilités de, encore plus dures, mais pour, c'est une voie de côté 8B+, c'est une cotation française, et c'est la plus dure que j'ai jamais gravie par un libre, par un homme de mon âge.
Eri De Luca, vous avez quitté Naples à 18 ans et j'aimerais lire un extrait de votre dernier livre, Le contraire de 1, qui vient de paraître en France. C'est un extrait, c'est le moment où vous, je pense qu'on peut dire vous, quittez Naples. Et vous avez un regard pour le Vésuve. Ainsi, je regardais de son côté sa forme de miche gonflée par la fenêtre d'un train qui me détachait de l'endroit et seulement vers sa grosse caboche en forme de cratère sortie de ma bouche. Adieu. Je quittais ma place, celle qui nous est échue à la naissance, où l'on devient minéral à force de grandir à nous et où l'on devient bois à force de racines de cheveux et de poils sur le visage et le pubis, où la voix blanche de l'enfance se rouille et gronde en raclant la tranchée. Je partis en les trahissant tous, père, mère, sœur, maison, études, les rares amis et les 1000 semaines de résidence, tant il en faut pour faire 18 ans. Aucune fille ne se mouchait sur le quai de la gare, je n'ai trahi alors que cette aucune. Traître à une vie apprêtée, déjà affublée d'un titre, qui n'avait qu'à se dérouler et pourtant rien, on se saisit au collet et on se tire sans l'ombre d'une lettre, d'un métier dans les mains, d'une nouvelle adresse, muet et bourré de jamais plus. N'importe où sauf ici, n'importe quelle faillite, plutôt que cette demi-heure de patience tous les trois quarts d'heure. Trahir et ne pouvoir le faire avec le soulagement de la lâcheté, mais quand même forcé de recourir au plus absurde courage jamais possédé avant, demander un prêt au futur, s'endettant envers lui. Trahir, c'est sentir ses poumons en feu. L'air de la fuite brûle dans les alvéoles. La liberté volée doit être féroce, sinon elle ne résiste pas au remords de la douleur de ce qui reste.
C'est passé comme ça. Avec un seul billet de train, je me suis détaché de tout. Je n'avais même pas encore 18 ans. Et tzac, parti. Et je ne suis plus revenu. Je suis revenu 12 ans après.
En 80.
En 80.
Au moment du tremblement de terre.
En tant qu'ouvrier dans un chantier.
De reconstruction?
Non, mais ce n'était pas de reconstruction.
Ce qu'on appelait reconstruction.
Oui, on appelait la reconstruction, mais c'était de soutien du bâtiment choqué. C'était, on mettait
des étais.
Mais des étais.
Et c'est à ce moment-là, dans les rues de Naples, que vous trouvez un livre par terre. Et c'est le voyage au bout de la nuit de Céline.
Voyage au bout de la nuit.
C'est vrai, cette histoire?
Si, c'est vrai. C'était sur le trottoir, en vente. Je l'ai acheté, je l'ai racheté avant de le détruire moi-même, parce que c'était un livre déjà abîmé. Et donc, qui perdait les pages que je lisais. Il me restait seulement les pages qui devenaient toujours plus légers vers la fin, mais qui contenaient pour moi une acidité d'estomac, une rage déposée, pas sur les nerfs, mais une rage de fond qui me regardait parce que je venais de l'expulsion de la lutte ouvrière, de la Fiat. Je venais de la dénouement de mes amitiés, de mon appartenance avec une communauté. Donc j'étais mis à l'écart de ça et je devais recommencer une vie en tant qu'ouvrier n'importe où. C'était le cas de Naples, mais ce serait le cas de d'autres choses. Il y avait une acidité, j'étais plus écroulé que la ville, plus secoué de la ville.
Henri de Lucca, c'est toujours au cours de ces années 80, dans ce que vous appelez le désert personnel de ces années 80, que vous commencez à lire la Bible. Vous avez appris l'hébreu pour pouvoir lire dans le texte. Et puis, c'est une lecture quotidienne, au petit matin, 5h30, tous les jours. Quelques versets de la Bible.
Le début, c'était le fait que ces histoires étaient des histoires désertiques, anciennes, qui ne voulaient pas être à côté du futur, de lecteur futur. C'était des histoires qui ne voulaient pas être proches. Ce sont des histoires d'une révélation formidable, violente, qui s'impose sur une petite communauté et prétend d'elle l'obéissance, l'amour et l'implantation du monothéisme dans le lieu le plus difficile du monde, le lieu, la Méditerranée, le lieu le plus doté d'idoles, d'idolâtrie et de l'immense fantaisie théologique de l'humanité.
Le plus polythéiste.
Le plus polythéiste du monde s'imposait cette révélation écrasante et géante d'un seul Dieu qui venait les détruire tout et qui devait arracher les dieux, pas seulement des autels, mais directement du cœur des hommes.
Vous n'êtes pas croyant?
Je ne suis pas croyant, mais je sais que dans cette langue, il y a l'empreinte de cette force de transmission.
Et puis vous avez, même si vous n'êtes pas croyant, cette intimité quotidienne avec tous ces personnages que vous connaissez par cœur, y compris avec Elohim. Et vous dites que vous êtes toujours d'accord avec lui.
Oui, oui, je sais que...
Qu'est-ce qui fait que vous soyez...
Je crois que maintenant, de comprendre la façon avec laquelle il agit dans l'histoire, dans ces histoires-là. Mais c'est devenu une intimité. Ça a commencé comme un désir de m'enfoncer plus profondément dans un désert, de faire ce passage matinal avant d'aller sur les chantiers, avant d'aller travailler pour le salaire. Je faisais ce passage dans la terre, dans cette terre foudroyée par la révélation, et c'était un aller-retour qui durait une heure, et après une heure j'étais prêt à me charger de la journée qui m'attendait dehors. Après, c'était ça. Maintenant, c'est devenu lentement une intimité physique, je me réveille en ancien hébreu.
Alors, ce n'est pas un extrait de la Bible que vous allez nous lire pour terminer, mais un extrait du chant général de Pablo Neruda.
Et le final... Paix pour les crépuscules qui s'avancent. Paix pour le pont, paix pour le vin. Paix pour les lettres qui me cherchent et montent dans mon sang, y emmêlant le vieux champ et la terre, les amours. Paix pour la ville, au petit jour, quand s'éveille le pain. Paix pour le fleuve, des racines pour le Mississippi. Paix pour la chemise de mon prochain. Paix dans le livre comme un seau de vent. Paix pour Kiev et son grand Kolkhoz. Paix pour les cendres de ses morts et de ses autres morts. Paix pour le fer noir de Brooklyn. Paix pour le facteur qui se rend de maison en maison comme le jour. Paix pour le chorégraphe qui crie ses paroles dans un entonnoir au volubile. Paix pour ma main droite qui ne veut écrire que Rosario. Paix pour le Bolivien secret comme un pierre d'étain, paix pour que tu te maries, paix pour toutes les scieries du bio-bio, paix pour le cœur écartelé de l'Espagne guerrière, paix pour le petit musée de Wyoming, où le plus doux est un coussin avec un cœur brodé, Paix pour le boulanger et ses amours, et paix pour la farine, paix pour tout le blé à naître, pour tout l'amour qui cherchera la frondaison, paix pour tous ceux qui vivent, paix pour toutes les terres et les eaux. Je prends congé, je rentre chez moi, dedans mes rêves. Je retourne à cette Patagonie où le vent frappe les étables et où l'océan disperse la glace. Je ne suis qu'un poète et je vous aime tout. Je vais errant par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs et le soldat commande au juge. Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. Si je devais mourir 100 fois, c'est là, oui, que je vais mourir. Si je devais naître 100 fois, c'est là aussi que je vais naître. Près de la raucaria sauvage, des bourrasques du vent du sud, des cloches des puipées acquises. Qu'aucun ne pense à moi. Pensons à toute la terre. Frappons amoureusement sur la table. Je ne vais pas revoir le sang, imbiber le pain, les haricots noirs, la musique. Je vais que viennent avec moi le mineur, la fillette, l'avocat, le marin et le fabricant de poupées, que nous allions au cinéma, que nous sortions boire le plus rouge de vin. Je ne viens rien solutionner. Je suis venu ici chanter. Je suis venu afin que tu chantes avec moi. Io non vine aquí para resolver nada. Io vine aquí para cantar y para que cantes conmigo.
Merci, Ari De Luca.
Merci a vous.
C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, préparée avec l'aide de Fabien Pourcher, à la technique Olivier Dupré, réalisation Sylvie Migaud.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 avril 2004.